C'est dur la vie. C'est dur la vie. C'est dur pour tout le monde. Et cet après-midi, je ne me pose même pas la question de savoir si vous avez besoin d'être encouragé, mais plutôt de savoir pour quelles raisons en particulier vous avez besoin d'être encouragé aujourd'hui. Parce que la vie, c'est dur. Et elle est dure pour tout le monde, mais peut-être pour des raisons différentes. Est-ce pour vous parce que vous avez des problèmes de santé, ou bien des problèmes d'argent, ou bien des problèmes relationnels, ou des problèmes professionnels? Est-ce que cet après-midi, vous êtes dans le deuil? Est-ce que vous êtes inquiet, ou stressé, ou déprimé? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui seul, ou incompris, peut-être abandonné, frustré? Peut-être que vous vous sentez coupable aujourd'hui. Est-ce que vous êtes démoralisé par le monde qui vous entoure, par les nouvelles que vous recevez jour après jour? Est-ce que vous avez l'impression d'être désorienté par rapport à des circonstances pénibles que vous traversez en ce moment? Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'on vous attaque? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous calomnie, qui vous fait du mal, qui vous persécute? Et si vous êtes chrétien cet après-midi, vous savez sans doute que votre foi en Jésus, ça change quand même pas mal de choses à votre perception du monde, et donc à votre perception de votre existence dans ce monde, et donc à votre perception des épreuves et des souffrances qui font partie de votre existence dans ce monde. Être chrétien, avoir la foi en Jésus, ça change votre perception de ces choses, mais ça ne rend pas votre vie automatiquement ni objectivement plus facile pour autant. Et le passage qu'on va lire dans quelques instants vient après plusieurs chapitres où l'apôtre Paul a déjà parlé longuement de tout un nombre de bienfaits qui viennent aux gens par la foi en Jésus. Et il y a 2 semaines, on en a mentionné quelques-uns de ces bienfaits. Le chrétien est pardonné pour ses péchés s'il a foi en Jésus. Il n'est plus condamné par la loi de Dieu, par les exigences morales de Dieu. Il est crédité aux yeux de Dieu de la justice de Jésus lui-même, le croyant. Il n'est plus sous l'emprise de sa condition déchue. L'Esprit Saint habite en lui. Il a de nouvelles pensées, de nouveaux désirs qui sont maintenant conformes à la volonté de Dieu. Il est même, on l'a vu il y a 2 semaines, il est même, le croyant, adopté par Dieu. Il vit dans une relation qui n'est pas une relation de crainte vis-à-vis d'un maître qui exercerait son autorité de façon tyrannique et autoritaire, mais il vit dans une relation d'amour familial avec Dieu son Père, qu'il a pris comme enfant, qui a pris le croyant comme enfant. En voilà, n'est-ce pas, des choses positives dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui a foi en Jésus. Mais voilà, l'apôtre Paul, en écrivant ce passage, il sait pertinemment que malgré ces réalités, la vie c'est quand même dur. C'est quand même dur, même pour les chrétiens. À certains égards d'ailleurs, c'est pire pour les chrétiens. Vous le savez, dans certains pays, les chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, encourent l'emprisonnement ou les violences, la torture parfois, et même la mort. Dans d'autres pays, ce sont les moqueries, l'aliénation, l'incompréhension, des amitiés perdues, des familles divisées. Et plusieurs ici ont fait l'expérience de ces réalités en devenant chrétiens. Et puis quand on est chrétien, on lutte intérieurement contre des choses qui sont en nous et dont on sait très bien qu'elles sont mauvaises. Et parfois on se décourage dans cette lutte. Et parfois, même en tant que chrétien, on est tout simplement fatigué ou bien submergé par les inquiétudes. Spirituellement même, parfois, n'est-ce pas, on se sent à sec. À sec, spirituellement. On n'arrive plus à lire la Bible, et encore moins à prier. Et parfois même, le doute vient s'immiscer dans notre cœur de chrétien. L'apôtre Paul, il a conscience de tout ça, en écrivant ces lignes. Et c'est pour répondre à tout ça, justement, qu'il écrit la deuxième partie du chapitre 8 de son épître aux Romains, c'est-à-dire à des chrétiens de son époque qui habitaient à Rome. C'est pour nous consoler et nous encourager qu'il écrit ces choses, en nous faisant comprendre une idée simple mais extrêmement importante. C'est que quoi qu'il arrive dans cette vie, que nous traversions des circonstances heureuses ou malheureuses, si nous sommes attachés à Jésus par la foi, Dieu a envoyé son Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il nous applique irrésistiblement son salut. Et vous allez voir qu'il y a là, pour nous les croyants, vraiment un puissant encouragement face à nos souffrances. Alors lisons le texte. Il s'agit donc, comme je le disais, de l'Épître aux Romains. Une épître, c'est tout simplement une lettre, en l'occurrence écrite par un des apôtres de Jésus. Au 1er siècle, elle est écrite à des chrétiens qui habitaient Rome, la ville de Rome. Et donc nous lisons au chapitre 8 à partir du verset 17. Je vais ajouter le verset 16 juste avant pour le contexte. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, ça désigne les chrétiens ici. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Ça se passerait presque d'une prédication après, hein. Mais on va prier et regarder tout ça un peu plus dans le détail. Prions. Seigneur, merci infiniment pour ta parole et pour ce passage vraiment glorieux que beaucoup d'entre nous connaissons bien. C'est sans doute un des passages favoris de beaucoup de chrétiens. Et au moment d'aborder ce texte qui contient tant de vérités merveilleuses, aide-nous à être attentifs à ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Et par la puissance de ton esprit, Seigneur, prends ta parole et applique-la à notre vie. Transforme-nous, fais en nous ce que tu as prévu de faire. t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quand on regarde ce passage, on voit que dans un premier temps, l'apôtre Paul, il veut nous faire comprendre que le Saint-Esprit, dans notre vie aujourd'hui, dans la vie des chrétiens aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est comme un acompte sur le paradis à venir. C'est ce qu'on voit au verset 17 à 25. Vous avez noté que dans ces quelques versets, l'apôtre Paul, il reconnaît la réalité de la souffrance dans la vie des chrétiens. Mais parallèlement, il parle d'une autre réalité, une réalité future, qui est celle, dit-il au verset 18, de la gloire à venir. Et il dit que toute la création, tout ce qui a été créé par Dieu, nous compris, eh bien, toute la création aspire à cette situation future, celle, dit-il, où même la nature sera délivrée et renouvelée, cette situation future où la rédemption des croyants et leur adoption comme enfants de Dieu, dont il a été question dans les versets précédents, seront définitivement manifestées aux yeux de tous. Bref, le monde entier, dit l'apôtre Paul, le monde entier, nous et tout ce qui nous entoure, eh bien fondamentalement tout ça, soupire après le paradis, espère et attend le paradis, aspire au paradis. Et nous aussi, en tant que croyants, à plus forte raison, nous participons de cette aspiration, de cette espérance fondamentale. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà reçu de la part de Dieu les prémices de ce paradis, à savoir le Saint-Esprit lui-même, que Dieu a envoyé dans notre cœur. Et quand l'apôtre Paul, il parle des prémices ici dans ce passage, il fait en fait une métaphore. C'est une métaphore qu'il est en train de faire. Les prémices, ça désigne quelque chose de précis, ça désigne les premières pousses d'une récolte. D'accord ? Dans l'Ancien Testament, quand arrivait le temps de la moisson, il y avait une règle qui consistait à récolter donc les premières pousses de la récolte et à présenter ces premières pousses, ces prémices, les présenter à Dieu dans son temple. C'était une façon de consacrer ou de dédier à Dieu par la foi et symboliquement en quelque sorte toute la récolte qui allait venir ensuite après les prémices. Et donc d'une certaine façon les prémices annoncent la récolte à venir. C'est le signe visible d'une grande récolte qui viendra par la suite. Et Paul, ici, l'apôtre Paul, il veut nous faire comprendre que le Saint-Esprit est donné aux croyants un peu comme les prémices du paradis à venir, les prémices de la gloire à venir, vous comprenez, de cette situation glorieuse vers laquelle nous tendons, celle que nous espérons, celle après laquelle nous soupirons. En nous donnant le Saint-Esprit, Dieu nous a, en quelque sorte, consacrés pour le paradis. Et Paul, il semble dire ici que c'est une des raisons pour lesquelles la vie est dure pour nous, les croyants, ici-bas. C'est parce que, justement, ayant reçu les prémices du paradis à venir, eh bien, nous désirons par conséquent, et nous désirons puissamment, au fond, être délivrés une fois pour toutes de notre condition déchue, et nous désirons accéder à ce paradis. Nous avons hâte de connaître le paradis. Il y a une attente, un espoir, une impatience en nous qui se porte vers cet avenir. Et du coup, nous sommes d'autant plus sensibles à notre faiblesse présente, n'est-ce pas ? Nous sommes d'autant plus sensibles à tout ce qui contredit cette réalité, notamment à nos péchés, des choses en nous qui ne sont pas conformes à la gloire à venir, à la gloire du paradis, ces choses que nous n'emmènerons pas avec nous d'ailleurs, n'est-ce pas, au paradis, et qui nous frustrent, et qui nous attristent, et qui nous énervent des fois. Mais l'intention de Paul ici, c'est surtout de nous faire comprendre, d'une part que cette frustration que nous connaissons en tant que chrétiens, elle est normale, mais d'autre part que nous pouvons en même temps nous consoler en nous rappelant que ce paradis à venir, dont nous avons reçu les prémices et auquel nous sommes irrémédiablement destinés en raison de ces prémices que Dieu a placées en nous, eh bien ce paradis compensera en quelque sorte infiniment les souffrances dont nous faisons l'expérience aujourd'hui. Le paradis à venir, la gloire à venir, compensera infiniment les souffrances dont nous faisons l'expérience aujourd'hui. Quand Paul y dit au verset 18 qu'il n'y a pas de commune mesure entre nos souffrances d'aujourd'hui et le paradis de demain, qui veut dire, c'est que ce sont deux choses impossibles à représenter à la même échelle. C'est ça que ça veut dire. C'est comme si on voulait dessiner sur une même feuille de papier, et en respectant les proportions, dessiner un grain de sable et le soleil à côté. C'est impossible. Soit le soleil n'y tiendrait pas sur la feuille de papier, soit le grain de sable serait tellement petit qu'il serait absolument invisible. On ne peut pas représenter ces deux choses à la même échelle, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Et on est dans le même ordre de différence entre nos souffrances aujourd'hui, si pénibles soient-elles, et la gloire à venir dans le paradis. Cette gloire sera si grande que nos souffrances d'aujourd'hui, en comparaison, seront alors devenues si minuscules que nous ne pourrons même plus les voir. Et du coup, cette espérance-là devrait aujourd'hui produire en nous la persévérance, c'est ce que dit l'apôtre au verset 25. C'est comme la grossesse et l'accouchement. Et c'est une métaphore, une comparaison que Paul emploie ici aussi, hein, au verset 22, en disant que la création souffre les douleurs de l'enfantement. Quand on est enceinte, on souffre, n'est-ce pas? Et quand approche le moment de l'accouchement, on souffre, les contractions, c'est douloureux, c'est d'ailleurs de plus en plus douloureux, ça s'intensifie, mais ces souffrances-là, en général, sont supportables en vertu du bébé qui est sur le point de naître, n'est-ce pas? Et vous voyez que quand on est enceinte, je sais que ça concerne au moins une personne ici, l'espérance produit la persévérance. Et quand on va à la clinique, l'espérance produit la persévérance parmi les douleurs, n'est-ce pas, les contractions. C'est la même chose concernant notre vie chrétienne. L'espérance dont parle Paul ici produit, en tout cas est censée produire, la persévérance. Donc le Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui, c'est d'abord comme un acompte sur le paradis à venir. Mais deuxièmement, le Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui nous relie parfaitement à Dieu. L'apôtre Paul, en l'espace de deux versets, versets 26 et 27, il fait une remarque ici très importante, qu'on a déjà mentionnée d'ailleurs dans le cadre de cette série de messages consacrés à la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit ici que nous n'avons pas besoin de savoir exprimer nos souffrances, car le Saint-Esprit s'en occupe à notre place. Il fait connaître nos souffrances à Dieu et il demande à Dieu de nous venir en aide d'une manière parfaitement adaptée à notre situation. Ce que Paul il veut dire ici, l'apôtre Paul, c'est que même quand nous n'allons pas bien, nous continuons, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et en vertu de ce que fait le Saint-Esprit pour nous, nous continuons de faire pleinement l'objet de l'attention bienveillante de Dieu. Même quand nous n'allons pas bien. Le Saint-Esprit intercède, dit Paul, intercède pour les croyants. Ça veut dire qu'il représente nos intérêts auprès de Dieu. Il plaide en notre faveur. Il parle pour nous, il parle à notre place. Il fait connaître nos besoins à Dieu le Père. Et parce qu'il est le Saint-Esprit, étant de même nature divine que Dieu le Père et Dieu le Fils, et bien parce que le Saint-Esprit est Dieu, lui aussi, il fait tout ça de manière parfaite. Parce qu'il a la nature divine, le Saint-Esprit est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, et il nous connaît donc parfaitement, il nous comprend parfaitement, il nous aime parfaitement, il connaît parfaitement en même temps la volonté et les intentions de Dieu pour nous, et donc c'est ça qui fait de lui l'interprète, l'intermédiaire, l'intercesseur idéal. Il est en effet comme un interprète auprès de Dieu. Vous avez sans doute déjà été frustré de ne pas pouvoir de pas pouvoir faire comprendre vos besoins à quelqu'un, et la raison c'était parce que vous ne parliez pas la langue de la personne en face de vous. Ça vous est sans doute déjà arrivé. Si vous avez voyagé un petit peu à l'étranger, notamment, ça vous est déjà arrivé, ou peut-être en accueillant une personne étrangère ici en France ou dans votre travail, peut-être que ça vous est arrivé. En tout cas, imaginez, vous allez donc dans ce pays étranger et vous vous présentez à la réception d'un hôtel, et voilà qu'à cause de la barrière, de la langue à laquelle s'ajoute la barrière de la culture, ben vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans ce cas-là? On parle plus fort. C'est pas vrai? Dans mon expérience, c'est ça, je suis spontanément, je vais parler plus fort. Mais ça sert à rien, n'est-ce pas? C'est inefficace, je vous assure. Ce dont on a vraiment besoin dans ce cas-là, c'est d'un interprète qui comprenne les deux interlocuteurs, vous voyez? Qui comprenne bien, et même le mieux possible, les deux interlocuteurs qui cherchent à communiquer. Et le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est cet interprète parfait, c'est l'interprète idéal entre nous et Dieu, parce qu'il est capable de nous comprendre parfaitement, et il est capable en même temps de communiquer parfaitement avec Dieu, c'est-à-dire qu'il peut nous comprendre parfaitement et se faire comprendre parfaitement de Dieu. C'est génial, non? Et c'est là une des fonctions du Saint-Esprit en tant que consolateur. Vous vous souvenez, on a parlé de ce concept du Saint-Esprit consolateur. C'est Jésus lui-même qui, en annonçant d'avance qu'il donnerait le Saint-Esprit aux croyants, il parle du Saint-Esprit en utilisant ce titre, le consolateur. En grec, le paraclète, celui qui marche avec nous, qui nous accompagne, qui nous aide, qui nous soutient, qui est là pour nous comme un avocat, un assistant, une aide. Il ne déserte jamais sa fonction, le Saint-Esprit. Et même quand nous avons l'impression d'être complètement dépassés par nos souffrances ou par les circonstances que nous traversons, lui, le Saint-Esprit, n'est jamais dépassé. Et il ne baisse jamais les bras. Et il ne déserte jamais sa fonction. Il continue d'intercéder pour nous, nous garantissant par là même l'attention bienveillante, perpétuelle, de Dieu. Et il arrive que nous soyons vraiment profondément découragés. Il arrive que nous soyons, même en tant que chrétiens, envahis par le stress ou envahis par l'inquiétude. Il arrive que nous souffrions trop, physiquement, émotionnellement ou psychologiquement, trop pour pouvoir sortir de notre lit ou de notre maison. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Il arrive même que nos péchés nous atteignent, vous savez, nous touchent, nous font mal, bien qu'on en a parlé il y a 2 semaines, ils ont été désarmés en vertu de ce que Jésus a fait pour nous, mais quand même, dans notre expérience de la vie chrétienne, parfois nos péchés nous touchent, ils nous font mal, ils nous atteignent, ils nous donnent l'impression qu'ils nous maintiennent sous leur emprise. C'est une illusion, mais pourtant une illusion qui semble parfois nous tenir dans ces griffes, n'est-ce pas? Et mes amis, dans ces situations et dans d'autres qu'on pourrait imaginer, écoutez bien, dans ces situations-là, nous ne sommes pas obligés de savoir quoi dire à Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous pouvons nous retirer dans un coin et simplement faire monter à Dieu nos larmes, faire monter à Dieu les cris indicibles de notre cœur, de notre âme. Il n'y a pas besoin qu'on ait des mots à mettre sur ces souffrances-là. On peut tout simplement faire monter à Dieu le silence. Faites-le cette semaine. Présentez-vous à Dieu dans le silence. Reposez-vous en lui pendant quelques minutes cette semaine. Sans complexe. Sachant que le Saint-Esprit qui est en vous, eh bien, il vient au secours de votre faiblesse. Et il intercède à ce moment-là, de toute façon. Il intercède lui-même pour vous de manière inaudible, inexprimable, mais non moins parfaite. Alors faites-le cette semaine. Prenez un moment pour vous reposer en Dieu dans le silence, sans complexe, en vous souvenant de cette réalité. C'est encourageant, non? Le Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui nous relie parfaitement à Dieu. Et troisièmement, le Saint-Esprit, dans notre vie aujourd'hui, nous garantit que nous appartenons à Dieu. Il nous garantit que nous appartenons à Dieu. Dans les versets 28 à 39, vous avez peut-être remarqué que le rôle du Saint-Esprit, en fait, n'est pas explicitement mentionné dans ces versets-là. Mais j'ai voulu quand même inclure ce passage dans le message d'aujourd'hui, parce que l'apôtre Paul, dans ces quelques versets, il explique une réalité très importante en lien avec la question de nos souffrances et en lien avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, qui ne sont peut-être pas mentionnées, mais qui sont quand même implicites dans ce que dit Paul dans ce passage. Et cette réalité que l'apôtre Paul veut nous expliquer, c'est que si nous sommes attachés à Jésus par la foi, eh bien, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons nous rappeler que Dieu nous a scellés pour lui-même. Il nous a scellés pour lui-même. Et le sceau de Dieu dans notre vie, c'est justement le Saint-Esprit qu'il a déversé en nous, si nous sommes croyants. Dans un autre passage, d'ailleurs que Jonas abordera la semaine prochaine, l'apôtre Paul dit explicitement que Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption désigne ce fameux jour de la gloire à venir où le paradis sera manifesté une fois pour toutes, n'est-ce pas ? C'est ça le jour de la rédemption, c'est dans Éphésiens 4, verset 30. Mais si Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, ça veut dire que Dieu, en quelque sorte, a mis sa signature sur nous. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans notre assemblée qui a reçu, il y a quelque temps, une photo dédicacée d'Arnold Schwarzenegger. C'est quelqu'un qui aime bien Arnold Schwarzenegger, je vous laisse essayer de deviner qui. Et si j'ai bien compris, cette photo, c'est une photo avec la signature originale d'Arnold Schwarzenegger dessus. C'est pas une photocopie, vous comprenez ? C'est pas un truc qu'on imprime par milliers et puis qu'on envoie aux fans comme ça, de façon indifférente. C'est vraiment Schwarzy qui a pris un stylo et qui a mis sa signature sur la photo. Et ça donne une vraie valeur, n'est-ce pas, à cette photo. Ça donne une vraie valeur à la démarche bienveillante d'Arnold Schwarzenegger qui a envoyé cette photo à notre ami. De la même façon, le Saint-Esprit dans notre vie, si nous sommes croyants, c'est la signature originale de Dieu sur nous. C'est pas une photocopie. C'est pas quelque chose qui est distribué en masse. Vous savez, à tout le monde, on imprime comme les tracts, là, 5000 exemplaires, et pfiouf, on les distribue dans les boîtes aux lettres. Ouais. Non, là, c'est la signature originale de Dieu. Par le Saint-Esprit, si nous sommes croyants, nous avons été marqués par Dieu comme lui appartenant. Et l'apôtre Paul, vous avez remarqué, c'est lyrique presque, hein, ce passage dans ce chapitre 8. Hein. L'apôtre Paul, il veut vraiment qu'on soit convaincu que rien ne peut nous séparer de Dieu si nous aimons Dieu. Rien ne peut nous séparer de lui. Et l'apôtre Paul, ici, il nous rappelle combien Dieu a investi, combien il a dépensé pour nous sauver. Il a pensé à nous dans l'éternité passée, avant la création du monde. C'est ça que veut dire le concept de prédestination. Dieu a pensé à nous avant même de créer le monde. On faisait l'objet de la pensée affectueuse, bienveillante de Dieu alors qu'on n'existait même pas. Mais dans l'éternité passée, Dieu a pensé à nous. Il a ensuite, dans l'histoire, envoyé son Fils sur la terre et il l'a livré pour nous, dit l'apôtre Paul. Jésus, en effet, en tant que Fils éternel de Dieu, a accepté de prendre un corps, de devenir un homme, de s'incarner, de vivre parmi nous. Et il a obéi volontairement à Dieu son Père et il a accepté d'accomplir le plan de Dieu qui consistait à nous racheter. Et pour ça, le Fils éternel, glorieux de Dieu, a souffert et il est mort sur la croix. Vous connaissez l'histoire, sur la croix, Dieu le Fils, Jésus-Christ, a pris sur lui le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. Et en mourant et en étant enseveli, il a emporté nos péchés dans la tombe avec lui. Mais ensuite, le troisième jour, il est ressuscité en vainqueur. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père. Et maintenant, il nous représente auprès de Dieu. Il plaide perpétuellement les mérites de son sacrifice en notre faveur. Et Dieu a même déversé ensuite son Saint-Esprit dans le cœur des croyants, dans le cœur de tous ceux qui font confiance à Dieu, qui aime Dieu, qui s'appuie sur ce que Jésus a fait pour leur salut. Et est-ce que vous pensez que maintenant, vu tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a investi pour notre salut, est-ce que vous pensez que maintenant, il y aurait quoi que ce soit qui pourrait nous séparer de Dieu ? Si Dieu a misé sur nous à ce point, est-ce que vous pensez qu'il pourrait renoncer à nous sauver à la fin ? Genre un jour dans l'avenir, on n'est pas trop sûr, peut-être que Dieu il va changer d'avis. quand on considère tout ce qu'il a misé sur nous, en quelque sorte, tout ce qu'il a investi pour nous sauver, le prix qu'il a payé pour nous sauver. Et c'est ça que Paul veut que nous considérions dans ce passage-là. Il est impossible, si nous sommes croyants, impossible que nous soyons un jour séparés de l'amour de Dieu. Dieu nous a marqués de son sceau, de son tampon. Il nous a marqués de sa signature originale. C'est une marque spirituelle, bien sûr, c'est le Saint-Esprit en nous. Mais c'est cette marque spirituelle d'appartenance à Dieu qui, en fait, est signifiée et, en quelque sorte, représentée extérieurement par ce qu'on appelle les sacrements, ces fameux rites réservés à l'Église chrétienne que sont le baptême et la Sainte Cène. Vous voyez, le baptême et la Sainte Cène, ce sont des signes visibles et tangibles, mais qui viennent nous aider dans notre foi pour nous attester de la fiabilité des promesses de Dieu faites à l'Église, à savoir que si nous aimons Dieu sincèrement, si nous plaçons notre espoir en lui, bref, si nous avons la foi, nous sommes complètement et définitivement sauvés pour l'éternité. Telle est la réalité qui nous est rappelée par le pain et la coupe, notamment chaque dimanche lorsque nous les prenons. Si nous avons foi en Dieu, sur la base de ses promesses, si nous nous appuyons sur l'œuvre parfaite, unique, accomplie par Jésus-Christ, nous sommes complètement et définitivement sauvés pour l'éternité. Rien ne peut faire échouer le plan de Dieu pour nous. Et cette sécurité extraordinaire, elle est en fait d'un encouragement et d'une consolation incroyable. Lorsque nous, à notre tour, nous sommes confrontés aux vicissitudes de notre existence, que ce soit la souffrance physique, la maladie, le deuil, la persécution, le conflit, la solitude, la peur ou encore le péché, la culpabilité et la dépression spirituelle. Rien ne peut faire échouer le plan de Dieu pour nous. Nous sommes en sécurité. Voilà pourquoi je disais en introduction que toute la leçon de ce passage, c'est que quoi qu'il arrive dans cette vie, que nous traversions des circonstances heureuses ou malheureuses, si nous sommes attachés à Jésus par la foi, et j'espère de tout mon cœur que c'est votre cas à tous cet après-midi, que vous êtes attachés à Jésus, par une foi personnelle, une foi sincère. Si nous sommes attachés à Jésus par la foi, Dieu a envoyé dans notre vie son Saint-Esprit pour qu'il nous applique irrésistiblement son salut. Et il y a là pour nous un puissant encouragement face à nos souffrances. Le Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui, c'est comme un acompte sur le paradis à venir. Le Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui nous relie parfaitement et perpétuellement à Dieu. Et le Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui nous garantit que nous appartenons à Dieu pour toujours. L'apôtre Paul, dans ce passage, il reconnaît que la vie, c'est dur. Et même que c'est particulièrement dur à certains égards pour les chrétiens. Et c'est son cœur de pasteur qui s'exprime ici, à l'apôtre Paul, où il cherche à encourager les chrétiens que nous sommes, où il cherche à nous consoler en nous rappelant combien nous sommes aimés de Dieu. L'objectif de Dieu est clair. L'objectif de Dieu pour nous est clair. C'est notre bien, son objectif. C'est notre gloire, son objectif. C'est, pour reprendre un terme un peu vieillot, mais non moins adapté, c'est notre félicité éternelle, son objectif à Dieu pour nous. Parce qu'il nous a élus et aimés en Christ avant même la fondation du monde et rien ne peut faire échouer son plan pour nous. Dieu a tout mobilisé pour l'accomplissement de cet objectif pour nous, c'est incroyable. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul il dit que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Enfin, je veux dire, c'est une sacrée affirmation ça. Toute chose, Dieu a tout mobilisé pour l'accomplissement de son plan pour nous, en notre faveur, si nous aimons Dieu. Il existe une illustration assez courante de ce point, c'est l'illustration de la tapisserie. Une tapisserie, vous savez, c'est une œuvre d'art créée par tissage. On tisse des fils ensemble qui sont de couleurs différentes pour réaliser eh bien, un, une image, n'est-ce pas? Et quand on regarde le verso, hein, l'envers de la tapisserie, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste un enchevêtrement incompréhensible de fils qui vont dans tous les sens et ça ressemble à rien, c'est pas beau, enfin, c'est juste, on dirait un gribouillis fait avec des fils, n'est-ce pas? Mais quand on retourne la tapisserie, qu'on regarde le recto, qu'on regarde le bon côté, on découvre une image magnifique, où tout d'un coup on découvre avec admiration la fonction de tous ces fils de couleurs différentes. Et il en sera un peu de même lorsque nous entrerons dans la gloire, lorsque nous obtiendrons ce que nous espérons, lorsque la création sera libérée de la servitude, lorsque nous connaîtrons la rédemption de notre corps et la réalité du paradis. Ce jour-là, eh bien, toutes les souffrances et les incompréhensions et les frustrations de notre situation présente, ce jour-là seront consolées et corrigées et satisfaites, et nous pourrons alors voir exactement comment Dieu les aura fait concourir ou coopérer pour notre bien. Ce jour-là, on le verra et on comprendra et on sera plein d'admiration. En attendant ce jour, et c'est une certitude, si nous sommes attachés à Jésus par la foi, Dieu, il est aujourd'hui déjà en train d'œuvrer puissamment pour nous et il est en train de nous appliquer de façon irrésistible, irrémédiable, inéluctable. Il est en train de nous appliquer son salut par le Saint-Esprit qu'il a déversé en nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage vraiment glorieux, dont nous n'avons pu tirer finalement que quelques miettes, tellement il est riche en enseignements. Et Seigneur, merci de nous rappeler ce soir cette sécurité qui est la nôtre, de nous rappeler que la grâce que tu nous as faite en déversant ton Saint-Esprit dans notre cœur, lui qui est un acompte du paradis à venir, lui qui nous relie parfaitement à toi, Père, lui qui nous garantit que nous t'appartenons pour toujours. Aide-nous à vivre dans la conscience de cette réalité-là, avec une immense gratitude et une foi renouvelée chaque jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.